la chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr. La chronique beaujolaise de l'Académie, c'est parti.
Bonjour, cette émission se déroule dans le cadre des chemins de traverse, les premiers mardis de chaque mois à 18h30, rediffusée le dimanche suivant. Elle précède une conférence de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais qui a lieu le deuxième samedi de chaque mois à 16h à l'auditorium de Villefranche et traite du sujet en l'élargissant. Ce mois-ci, la conférence du 12 novembre s'intitule « Le château des Tours à Anse fait peau neuve ». Elle sera faite par Jean-Pierre Giraud, vice-président de l'association Art, Civilisation, Patrimoine, Patrimoine des Pierres Dorées. Mais aujourd'hui, nous en profitons pour évoquer plus précisément avec Perrine Guyot, guide conférencière en Beaujolais, les châteaux en Beaujolais. Bonjour Perrine Guyot.
Bonjour.
Bonjour. Pour commencer, donc, il serait bon de définir ce qu'est un château.
C'est une très bonne question puisque c'est un terme qui aujourd'hui est appliqué à toutes les constructions d'envergure. Et à l'origine, un château médiéval doit posséder deux éléments défensifs majeurs, une douve et un donjon ou une tour maîtresse qui sont les symboles de la féodalité. Et puis progressivement, le château va évoluer d'un bâtiment défensif, on va aller vers une résidence plus de plaisance. Le changement va s'opérer au XVIIIe siècle, à un moment également où les pièces vont avoir une fonction définie. Donc on ne reçoit plus dans sa chambre, mais on va avoir des salons, par exemple, pour recevoir les invités. Et le château, si on suit l'histoire de France, devrait disparaître avec la Révolution française, puisque c'est le symbole de la féodalité, de l'aristocratie, qui disparaît avec la Révolution. Sauf qu'au XIXe siècle, et on le voit bien en Beaujolais, on a un nombre incalculable de châteaux, qui sont en fait des grosses maisons, des maisons bourgeoises, où on vit d'une manière bourgeoise. Vous avez les salles de réception au rez-de-chaussée, l'espace privatif qui va se trouver au premier étage, et on fait une distinction. On reçoit les personnes dans certains endroits ou dans d'autres, selon les moments. La fin des châteaux, c'est vraiment fin 19e, même peut-être début 20e, jusqu'à la Première Guerre mondiale, avec les grands industriels. Mais après la Première Guerre mondiale, on n'utilise plus vraiment le terme de château. C'est des grosses maisons, mais plus vraiment le château.
Et la fin des châteaux forts, c'est au moment de Louis XIV, quand il les fait démolir pour éviter que les grands puissent se révolter. On les avait déjà adaptés en agrément, mais les murailles sont détruites.
Oui, c'est vraiment le moment où on va soumettre la noblesse en lui enlevant ses symboles les plus forts, ses attributs les plus forts, donc les murailles, les ponts-levis, par exemple, pour la garder calme.
Oui, donc il y a ces châteaux résidences, ce qui veut dire les châteaux de la Loire, par exemple, ce ne sont que des résidences. Il y a peu de châteaux fortifiés, médiévaux, de guerre, ou je ne sais pas.
Azel Rideau, donc, a été réadapté.
Exactement. Peut-être. Là, vous vraiment mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'à l'origine, ces châteaux sont des châteaux défensifs. Puisque Azel Rideau, la galerie sur le Cher, a été ajoutée à partir d'un donjon carré. Je pense à Amboise. Amboise, c'est quand même très défensif. Où vous avez tout l'ensemble. Alors, il n'en reste pas beaucoup, mais on avait quand même tout un ensemble qui surplombait la ville et qui permettait de la protéger et d'être un camp retranché également pour protéger la population en cas d'attaque. Pour les autres, et en particulier Chambord, c'est François Ier, on est dans l'italianisation, on va dire, de la société française à ce moment-là, où on va vraiment chercher à avoir ces demeures de plaisance. C'est aussi un moment où on va passer, enfin, ça va avec l'évolution de la société, mais un peu comme tout, où on va passer d'une société féodale à un régime, on reste dans la monarchie, mais où on va moins se battre, où on va avoir plus plutôt une noblesse de robe, alors qu'avant, on avait vraiment une noblesse d'épée. Et puis, les campagnes italiennes des rois de France font que l'influence italienne arrive en France et on va avoir ces maisons des champs. En fait, le château, à partir du XVIe siècle, c'est comme les maisons des champs italiennes, avec toute la splendeur qu'on peut voir encore, je pense aux villas palladiennes, par exemple, qui sont assez modestes.
Voilà, puisque vous avez évoqué Chambord, on nous dit que François Ier n'y a pratiquement jamais habité. Alors, quelle était, est-ce que vous la connaissez, la finalité, justement, de la construction de ce grand château ?
C'était un grand mécène. Et le mécénat passe par les arts, et l'architecture est un art. Donc, vous avez toute cette démonstration du pouvoir. L'escalier hélicoïdal de Chambord à double révolution n'a aucune utilité. Enfin, un escalier, ça suffit pour monter et descendre. Pourquoi en avoir deux autour d'un vide central ? C'est simplement pour montrer la dextérité aussi des architectes au service des rois.
Et dans mes cours d'histoire de l'art, j'ai toujours appris que l'escalier, c'est la pièce maîtresse dans tous les châteaux d'apparat, parce que c'est la prouesse technique, et on veut montrer qu'on a de l'argent. Donc si vous visitez un château, regardez d'abord l'escalier.
En France.
Oui, en France.
France, c'est extrêmement marqué. Mmh. C'est là où on dévoile toute la richesse de la famille, et c'est là où on va montrer chez qui on arrive. C'est-à-dire que souvent, vous avez des décors en stuc, vous avez également des tableaux, pourquoi pas des portraits de la famille, et vous savez exactement chez qui vous arrivez. C'est vraiment le symbole de démonstration. Et par la suite, je pense à Cormatin, qui n'est pas très loin, qui est en Saône-et-Loire, où on a un escalier blanc. C'est-à-dire que vous n'avez aucun décor sur les murs. Et dans le contrat de construction, il était marqué que les murs devaient être blancs pour mettre en exergue la coupole, qui est une coupole en pierre et qui est une prouesse architectonique.
Et alors, bon, entre château fort, château d'agrément, on a quand même une grande variété, surtout sur tous les siècles.
Oui.
Et est-ce qu'on peut estimer le nombre de châteaux en Beaujolais ? Alors, je pense que ça doit être très difficile à faire.
C'est très difficile, effectivement. Ça dépend aussi de la définition du mot château. Enfin, on en a tous une différente.
Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Mais il y en a... Enfin, d'estimation entre 150 et 200.
150, 200. Quel que soit le style, l'époque.
Exactement. Oui. Quand vous vous promenez, dans chaque village, vous en avez un, voire deux, voire trois, voire six, voire sept. Thésée est un bel exemple. Vous avez au moins cinq châteaux.
Et puis au détour de chemin, quand on se promène, on voit toujours un château.
Alors après, il y a aussi au Moyen-Âge une différence entre château et maison forte. C'est-à-dire qu'un château se trouve dans un bourg, se trouve dans un village, alors qu'une maison forte est à la campagne. Et que souvent, c'était des lieux de contrôle, des lieux de collecte de taxes sur des routes. Et aujourd'hui, on a généralisé, enfin, un château, c'est toutes les grosses constructions. Dès qu'on voit une grosse maison, même une maison bourgeoise, parfois on lui donne le titre de château. Mais ça renvoie aussi aux usages dans le passé de ces châteaux où c'est le lieu où on trouve à manger, le lieu où on trouve un refuge en cas de problème.
Oui, sans compter les fermes fortifiées.
Exactement.
Ou les fermes avec une grosse ferme avec une tour.
Exactement, mais et qui avaient également des droits féodaux associés à ces domaines qui étaient, enfin, à l'origine, la plupart des, surtout en Beaujolais, mais la plupart des châtelains, ce sont des gentilshommes fermiers.
C'est aussi les mêmes familles. Un Beaujolais, pour l'avoir un peu parcouru, même si je ne suis pas d'origine beaujolaise, on rencontre les familles à tel endroit qui sont en lien, cousins, enfin, à différents niveaux.
Oui, complètement.
Voilà.
Et ça représente bien, sur un territoire assez restreint, les liens qui se tissent dans une certaine catégorie sociale. C'est-à-dire qu'on se marie entre soi.
Tout à fait, tout à fait. Donc on a les plus connus, donc on cite Montmelat, Anse, Corcelles, Pizet, à Cogny également, donc il y a de beaux châteaux.
Et alors pour le coup, à Cogny, on ne parle pas de château, il y a le manoir d'Épaisse.
Oui.
Mais il n'y a pas de château, alors que le manoir avait des droits de justice associés, mais le manoir d'Épaisse dépendait de la seigneurie de Montmelat.
Ah d'accord.
Et pourquoi y a-t-il... Enfin, quelles sont les raisons, où est-ce qu'on peut faire des catégories du type de château militaire, vous parliez d'impôts aussi. Est-ce qu'on peut avoir des exemples comme ça de châteaux avec une utilité particulière, agrément ?
Alors, les châteaux d'agrément, 19e siècle, vous en avez une multitude sur tout le territoire.
C'est agrément quand même.
Alors, Pizet a une base médiévale avec le donjon carré. mais vous avez toute une partie Renaissance.
Oui. Donc puis, il s'était effondré, je crois, le château s'était effondré. Oui. Il y a deux enfants de la chaise.
Pizet, c'est la chaise. Ah, la chaise, oui, oui, oui. Alors la chaise, c'est effectivement, c'est une histoire assez... assez original puisque c'était une gentilhommière qui a été le manoir de la Douze, ça s'appelait très précisément, et le propriétaire qui était donc François de la Chaise d'Aix, qui était le frère du père Lachaise, le confesseur de Louis XIV, pour faire encore une fois la généalogie, un jour il y a eu un drame et effectivement la gentilhommière s'est effondrée, elle est en mauvais état sur ses deux enfants, il a tout rasé et il a décidé de reconstruire un château dont les plans sont attribués à Mansart.
Je te précise. Donc là, on est plutôt sur le côté agrément.
Complètement.
Et défensif, alors un château défensif en Beaujolais.
Varennes. Le château de Varennes, qui est à Quincier. Le château de Corcelles, où vous avez encore une partie des anciennes douves, alors qui ne sont plus en eau, mais en tout cas, les flèches également du pont-levis qui sont toujours présentes.
Mombla, non, pour le défensif?
Mombla, oui.
Dans l'origine, je veux dire.
Oui. Défensif, oui, mais il n'y a pas d'attribut militaire. C'est-à-dire qu'on ne les a plus. Mombla, ce n'est pas certain qu'il y ait... Enfin, de par la configuration du site, il n'y a pas forcément eu de pont-levis, de douves. Un côté où il y a eu un fossé sec, mais tout autour, c'était... On profitait de la vue pour justement voir venir les...
Torillés.
Exactement. En cas d'invasion, on était face à la plaine, face à l'Empire germanique, au Saint-Empire germanique, et on pouvait voir venir de loin. Ce qui est toujours le cas, d'ailleurs, quand on se promène à Montmelin. Enfin, c'est absolument incroyable, la vue qu'on a.
Et Ans, on est sur un lieu de passage
Ans, oui, mais surtout, au Moyen-Âge, on n'est pas sur le territoire des Sires de Bauges.
Oui,
on est sur le territoire des archevêques-comtes de Lyon, qui étaient très, très puissants et qui cherchaient aussi à défendre leur territoire. En parlant de châteaux défensifs, il y en a un qui a disparu et qui est quand même très, très lié au Beaujolais. C'était l'ancien château des Sires de Bauges, sur la colline Saint-Jean, aujourd'hui au-dessus de Beaujeu. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal, quand on va à Beaujeu, à savoir où était le château, parce que c'est une ville en fond de vallée, et un château en fond de vallée, ça n'a pas vraiment de cohérence. Mais le château était au-dessus, sur Plombay. Et si vous avez l'occasion d'aller vous promener un jour sur cette colline-là, où il y avait également une collégiale, c'était le centre religieux et spirituel et temporel du Beaujolais, eh bien, on a une vue panoramique, et les sires de Beaujeu avaient mis en place tout un réseau de tours, de châteaux, pour défendre la vallée d'Ardière. Et en cas d'invasion, eh bien, ils pouvaient arrêter avant d'arriver jusqu'au château.
À quel moment le château de Ouin a été démoli? Est-ce que c'est un incendie? Est-ce que c'est volontaire pour qu'il ne résiste que la tour?
Il a été détruit par le baron des Adrets en 1562, qui a ruiné complètement tout le village lors de son passage.
Et trop protestante.
Exactement. Ce fameux baron des Adrets qui a bien marqué le territoire.
Et on va prendre quelques exemples. Donc, on va reparler de l'exemple de Mombla. Alors, c'est un château qui a eu de nombreuses transformations. C'est ce qu'on oublie, c'est qu'un château, il n'est pas fixé.
Oui. Et souvent, on parle d'un château du XIIe siècle. Alors, certes, la base est du XIIe siècle. Mais entre le XIIe siècle et le XXIe, il a vécu, il a évolué. Donc, sa fonction, les usages ont également évolué. Et Mombla, ça a été à l'origine une forteresse militaire. C'était un campement pas du tout confortable. Enfin, les châteaux médiévaux ne sont pas confortables. C'est une notion qui est vraiment très récente et qui apparaît presque avec la Révolution, au moment où on a les demeures d'agrément. Mais un château médiéval va être un campement militaire avec le confort minimum, mais vraiment minimum au Moyen-Âge. Et puis, au fur et à mesure des besoins, surtout, on va ajouter différents bâtiments. Donc, finalement, ce qu'on pense, nous, comme aujourd'hui, être une construction unique... comme c'est le cas, vous parliez de la chaise. Là, c'est une construction. Il n'y a aucun bâtiment qui a été vraiment transformé. On a encore la cohésion. Au Moyen-Âge, pas du tout. On ajoute au fur et à mesure des besoins des occupants. Et on va avoir à Mombla un château qui a été abîmé à la Révolution française et qui a été reconstruit dans les années 1840 à la demande du comte de Tournon pour le transformer, et d'une gentilhommière, c'était presque, on le comparait souvent à un mât provençal. Donc c'était une grosse maison. On va lui redonner son allure. Et là, on arrive au XIXe siècle à Viollet-le-Duc. On lui redonne un aspect premier qu'il n'a jamais eu, certainement. Puisque c'est ça, la théorie de Viollet-le-Duc. C'est redonner aux bâtiments des aspects qu'ils n'ont jamais eu, parce que le temps de construction est tellement long que les modes, les usages ont évolué.
Bah précisément, donc, vous parlez de Viollet-le-Duc. Donc, il y a un château que vous aimez particulièrement, que vous avez étudié, c'est le château de la Flachère.
Exactement.
À Saint-Véran.
C'est ça, le château de la Flachère à Saint-Véran. C'est un bâtiment privé. On peut se promener dans la forêt de la Flachère qui auparavant faisait partie du domaine. Et parfois, on peut l'entreapercevoir un peu à certains endroits de la forêt. Et c'est un bâtiment qui est assez atypique parce que Viollet-le-Duc a été un homme extrêmement complexe, mais qui représente finalement le 19e siècle. Il était architecte, théoricien, restaurateur. Il a fait partie de la commission des monuments historiques. Et aujourd'hui, on lui attribue tous les défauts du 19e siècle. Il n'était pas le seul. Il ne peut pas porter toute la charge des erreurs qui ont été faites au 19e siècle.
C'est le plus connu.
Voilà, c'est le plus connu. Exactement. C'est vrai que c'est le plus connu. Et dès qu'on voit un truc mal fait, on se dit « Ah bah ça, c'est le 19e, c'est Viollet-le-Duc. » Alors, il y a d'autres choses. Il a beaucoup théorisé, et vous savez qu'entre la théorie et la pratique, en général, il y a un fossé. C'est souvent le cas, et ça se vérifie avec Viollet-le-Duc, c'est-à-dire qu'il a théorisé pour lui, justement, c'est lui qui a dit qu'il n'existait plus de château après la Révolution française, parce que ça appartenait à la société d'Ancien Régime. Et pourtant, il en a construit, il en a restauré. Je pense à Pierrefonds, par exemple, pour Napoléon III, qu'il a complètement reconstruit. Mais il va reconstruire un château médiéval adapté au 19e siècle. Parce que quand on visite Pierrefonds ou même la Flachère, c'est une maison bourgeoise aux allures de château. Mais il va mettre en œuvre tous les éléments de l'architecture au 19e, c'est-à-dire qu'on va avoir un plan de masse, on a un carré à peu près avec des tours aux angles, des fossés qui n'ont aucune utilité mais qui cachent les cuisines qui se trouvent en sous-sol, et puis il va jouer avec la polychromie, c'est-à-dire qu'il va faire des jeux entre la brique, la pierre dorée et la tuile.
La différence entre Pierrefonds et la Flachère, c'est que la Flachère, c'est un projet ex nihilo.
Exactement.
C'est assez unique. Assez rare.
Exactement. C'est extrêmement rare dans l'œuvre de Viollet-le-Duc, c'est-à-dire que la famille de Chaponnet lui commande un nouveau château, l'autre est en mauvais état, donc on va le raser complètement et on va reconstruire à partir de rien. Et c'est assez rare de la part d'un architecte aussi important de réaliser les plans du château. Alors, par contre, il ne réalise pas que les plans, c'est-à-dire que à cette époque-là, on pense l'architecture comme une œuvre globale qui va avec le mobilier, les papiers peints, le décor, enfin tout. Viollet-le-Duc a tout pensé. Et ses cartons sont encore aux archives départementales, c'est-à-dire qu'il avait tout n'a pas été réalisé, mais il avait tout pensé. Et le lien avec Pierrefonds aussi, c'est qu'il y a à Pierrefonds la frise des preux chevaliers qui raconte l'histoire de ces chevaliers, qui est reproduite également au château de la Flachère.
Et il est privé, ce château de la Flachère ?
Il est privé.
Il est privé.
Il est privé.
Quelle est la famille qui est propriétaire ? Parce qu'à un moment donné, je crois que c'était le canton du Bois-d'Oin qui avait des intentions de l'acquérir, mais il ne l'a pas fait alors.
Non, ça n'a pas été le cas. C'est un monsieur... Alors, ça remonte à une dizaine d'années, mes informations, donc ça peut être évolué. Mais c'était un industriel suisse qui le possédait.
On peut espérer qu'il ouvre pendant les journées du patrimoine,
non,
ou chose comme jamais. Il y a dommage.
C'est très dommage, mais c'est un peu le cas de tous les châteaux du Beaujolais. Quand on parle des châteaux du Beaujolais, ça crée quand même parfois, pour certains visiteurs, une frustration, c'est que très peu se visitent.
Enfin là, il y a un projet, on a vraiment un projet unique.
Oui.
C'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent, oui, et ça pourrait être...
Ça reste des propriétés privées qui sont soumises à l'intérêt, à l'envie des propriétaires de les ouvrir ou pas. Donc voilà. Mais au moins, ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'il a sauvé un bâtiment du patrimoine.
D'accord. Et alors, partons un peu avec une guide conférencière en Beaujolais. on va pas visiter ni une centaine, ni 200 châteaux. Mais si on en faisait une petite sélection, si on devait donner quelques conseils de visite, alors peut-être des remarquables ou des moins connus, parce que les très connus, je pense que...
Oui.
Les pas connus peuvent être remarquables.
Oui, voilà.
Oui. D'instinct, je pense au château de Raptour, qui se trouve à Thésée, oui. Qui est un château remarquable. Et surtout, le propriétaire a une connexion avec le bâtiment qui est extrêmement intéressante, puisque c'est lié à l'alchimie. Et il a toute une interprétation du bâtiment qui est très intéressante. Qu'on adhère ou qu'on n'adore pas, ça m'est arrivé de le visiter avec des personnes qui disent oh « oui, bon, quand même ». Mais on sent qu'il y a quelque chose et c'est vraiment intéressant. Et puis surtout, il a été meublé avec extrêmement de goût. Et c'est vraiment un château remarquable.
Oh, visite.
Lui se visite.
Tant mieux.
C'est ça, voilà.
Parce que je disais, quand j'y vais voir des châteaux, ça peut être aussi que de l'extérieur, malheureusement, mais ça peut être aussi ça.
Ça peut être que de l'extérieur. Alors, si vous avez la possibilité un jour de vous offrir une nuit au château de Bagnoles, dans une chambre à fresques du XVIe siècle, qui ont été réalisées vraisemblablement par Pietro Ricci, qui a également peint le château de Fléchère, mais cette fois-ci dans l'Ain à Farin, ça peut être aussi une très très belle expérience. D'autres châteaux de l'extérieur, alors j'allais dire aussi évidemment le château de La Chaise qu'on peut voir depuis le village et qui est une architecture remarquable. Le château de Varennes dont on a aussi parlé, qui est une forteresse médiévale. Il y a une tour qui date du XIe siècle et un château qui a été construit juste derrière au XVIe siècle et qui est vraiment une architecture impressionnante. Et puis par rapport à Beaujeu, c'est monter sur la colline Saint-Jean pour retrouver les vestiges, un peu l'atmosphère des sires de Beaujeu. Le château de Pravins également, qui se trouve à Blacé, qui est là, on parle de château aussi, mais c'est plus une maison forte, un gentilhomme fermier qui avait des droits de justice dès le début du Moyen-Âge.
Et le château de Saint-Renard, que j'ai visité, est-ce que vous voyez, qui est à Blacé aussi?
Oui.
Il a une histoire un peu particulière. Il faudrait peut-être rencontrer le propriétaire, qui est aujourd'hui le président de la Chambre de commerce de Villefranche. Et il a vraiment une histoire à raconter sur une orientation de ses tours par rapport à l'une à Jérusalem, l'autre à... Voilà. Vous connaissez peut-être cette histoire?
Non.
Même, voilà, il faut le voir. Il y en a un autre, c'est le château du Sou, qui a été acheté par... une personne qui est d'origine anglaise, je crois.
Oui.
Et il est en cours de restauration. Alors, qu'est-ce que vous avez la connaissance du pourquoi on l'appelle Château du Sou?
Non. Ouais. Non, vous voyez, même les guides ne savent pas tout.
Non, mais c'est pas non, parce que je me suis interrogé, quand je l'ai visité, je me suis interrogé sur le problème du Sou.
Et tu n'as pas la réponse?
Et je n'ai pas la réponse.
Ah, donc, avis aux auditeurs, parce qu'ils ont des...
Alors, ça... Oui, il y a une question.
Ou un prélèvement de taxes.
Est-ce
possible?
Qu'il est en fond de vallée? Est-ce que par rapport justement à Cogny, il est sous Cogny? Enfin voilà, il y a plein d'interprétations. Et puis surtout, l'étymologie et l'orthographe ont beaucoup évolué, même ces 150 dernières années. Donc après, est-ce que.
Alors, il est, semble-t-il, à la limite d'un territoire qui n'est pas le territoire beaujolais.
D'accord.
Qui
n'est
juste pas le donc, petit ruisseau qui fait la limite.
Péage, hein. Ce serait
ça
des gros
peut
sous.
Être une interprétation c'est... au niveau de la limite. Ah, ça peut
c'est
être
possible.
Aussi.
Ah,
donc ce serait des gros sous.
Voilà.
Tout
à fait. Ben, les gros sous, à mon avis, c'est pas ça.
Bon. Donc, ben voilà, on a des visites et des énigmes à résoudre. Donc, il y a de quoi faire. Merci de cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous le 12 novembre à 16h à l'auditorium pour prolonger cette émission avec la conférence proposée par l'Académie, Le Château des Tours, donc un parmi tous, à Arens, qui fait peau neuve. Et ce sera Jean-Pierre Giraud qui nous fera cette conférence. Vous pouvez retrouver nos actualités sur notre page Facebook et désormais aussi sur notre site internet.
Voilà, académie-villefranche.fr. Merci.
La chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr.